il est 23h.
Parlons vrai. 22h minuit, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Eh bien, on va continuer durant cette deuxième heure à lever ce tabou de l'inceste parce qu'il n'y a que comme ça hein, qu'on va avancer. On doit punir les abuseurs, les pédocriminels, etc. Mais je pense que si on veut que la société se libère, il faut en parler, il faut que tout le monde prenne conscience que ça existe. Et c'est évidemment grâce à des témoignages comme on a eu dans la première heure et qu'on va avoir dans la deuxième heure, Bruno Clavier, que les choses avancent. Vous oui. êtes psychanalyste, psychologue, clinicien, voilà.
Faut... Oui, je m'occupe beaucoup de ces affaires-là. Quoi. Voilà. Et donc je pense vraiment que c'est la parole. Hein, sinon tout ça c'est toujours caché, secret, enfoui et ça continue, donc il faut parler.
Et on a aussi les hommes qui connaissent ce genre d'abus et c'est important que vous aussi vous témoigniez, c'est ce que fait Henri et je vous remercie Henri de prendre la parole, bonjour.
Bonjour Brigitte, bonjour Bruno.
Bonjour.
Alors moi ça me concerne personnellement mais ça concerne aussi mes enfants et au moins un de mes petits-enfants. Je vous signale que j'ai été au rapport de la Civise, au studio 104 de la maison de la radio, il y avait 960 femmes et moins de 40 hommes. À la fin, j'ai fait remarquer au juge Bertrand que j'ai été voir...
Le juge Durand, vous voulez dire.
Que j'ai été voir, que je lui ai fait observer qu'il y avait dans son comité, il y avait 75% de femmes et 25% d'hommes. Je les ai comptés. Et il m'a dit oui, et il m'a dit je vais vous recevoir. Il m'a dit envoyez-moi un mail. Je lui en ai envoyé trois, il n'a jamais reçu. Mais par contre, j'ai rencontré Martine Lys, qui est la grande spécialiste à la clinique des Buttes-Chaumont, que j'avais tenté d'appeler des dizaines de fois et j'avais jamais pu la voir. Et elle me dit vous touchez un problème qui est le tabou des tabous,
oui.
C'est la pédocriminalité féminine.
Oui. Je crois que d'abord, je voudrais le dire, on sous-estime le nombre d'hommes qui ont été abusés. Et très souvent, quand on parle d'hommes abusés, on imagine toujours que c'est par d'autres hommes. Alors que si je vous écoute bien, ce ne
sont pas. Ah non, c'est par des femmes.
J'ai bien compris. Et merci de préciser.
Martine m'a dit, je suis en train de préparer un livre sur ce sujet qui est le tabou des tabous, mais ça va être très difficile. Et elle m'a dit, je lui ai donné mes coordonnées, elle m'a dit, je vais vous recevoir, et j'attends toujours. Voilà.
Alors, bon, nous, on vous donne la parole,
oui,
Henri.
Merci beaucoup, Brigitte, merci beaucoup, Bruno. Moi, ça m'est arrivé pendant 10 ans, heureusement, une fois par an, parce que j'avais des problèmes ORL, et je faisais des cures à l'époque à la Bourboule, en Auvergne, et pour avoir un remboursement de la Sécurité sociale, à l'époque, c'était remboursé. Il fallait une visite médicale qui se passait rue de Dunkerque, dans le 9e arrondissement. Actuellement, c'est plus le siège de la CPAM, c'est un immeuble. J'y suis passé devant il n'y a pas très longtemps, ça a été transformé en immeuble d'habitation. Et donc, ma mère me conduisait. On lui disait, madame, vous allez dans telle pièce, vous attendez votre fils. Moi, j'allais dans une autre pièce. Il n'y avait jamais d'hommes, que des femmes. Et on me disait, vous vous mettez en slip. Après, je pénétrais, dans une cabine métallique avec le sol qui pouvait monter et descendre. Et je recevais une radioscopie pendant pas mal de temps. Donc, j'ai pris des rayons X. Et il y avait une voix féminine à la fin qui me disait un quart de tour sur la gauche. Et dans cette cabine, il y avait un cercle d'environ 30 cm de diamètre et je sentais des mains féminines qui me baissaient mon slip et qui s'amusaient avec mes parties génitales. Et pareil pour les visites médicales, c'était toujours soit des médecins femmes, soit des infirmières femmes, et elles s'amusaient toujours avec mes parties génitales.
Vous aviez quel âge
Ça a commencé, j'avais 10 ans. Ça a duré 10 ans.
Jusqu'à vos 20 ans, donc.
À peu près, oui. Bah, je vous dis ça à la louche, parce que c'est quand même...
Bien sûr.
J'en ai jamais parlé à ma mère, j'avais la honte. Et je n'en parle que depuis très peu de temps. Mais le problème que... Enfin, ça, c'est pas très grave, parce que j'ai résolu... je vous indique que ça peut servir à d'autres. J'ai une éducation sexuelle extrêmement libérale. J'étais dans une famille catholique pratiquante et aucun sujet n'était tabou. Et j'ai surtout eu 5 ans d'enseignement d'histoire de l'art à raison de 1 heure de théorie par semaine, donc classique, et 4 heures tous les samedis dans les musées. Au moment de la puberté d'un garçon, ça fait énormément de bien, je peux vous dire. Et ça a été confirmé par la sexologue Thérèse Argot, qui a dit « Vous plaignez que les garçons ou les hommes en général soient violents avec les femmes, emmenez-les dans les musées au moment de leur puberté, montrez-leur des femmes nues à tire-larigot et vous verrez, ils auront une sexualité très équilibrée. » C'est ce qui s'est passé. Pour ma femme, je l'ai réalisé a posteriori parce que c'était en février 2020. J'ai constaté que c'était sur l'un de nos petits-enfants, une petite fille. Et parce que quand j'ai...
Vous voulez dire que vous avez constaté que votre femme, donc, abusait de sa petite fille?
À l'occasion du changement des couches. Parce que quand j'ai rencontré Martine Nice au studio 104 de la maison de la radio, elle me dit « Mais pourquoi vous n'avez pas dit à vos enfants et à vos petits-enfants d'aller se plaindre à la police ?» Mais je dis « Madame, moins de 2 ans, moins de 3 ans. » Ah, elle me dit « Ah oui, effectivement, oui. Pour les femmes, ça se passe à cet âge-là. » Elle le savait, elle. Et donc, ma petite-fille, elle avait moins de 2 ans. Et mes enfants, c'est en voyant ma petite-fille en février 2020 que je me suis rendu compte que ma femme avait à toucher sexuellement 2 de nos enfants, au moins, en 1987 et 89.
Vous voulez dire que votre femme, avec vos enfants, quand ils étaient tout petits, faisait des toilettes un peu trop précises, on va dire?
Ah bah oui,
j'ai bien compris.
Oui, oui.
Elle s'amusait avec les organes génitaux.
Et ce sont vos enfants qui vous l'ont dit?
Non, j'ai été témoin. Mais c'est en février 2020, en la voyant
agir sur votre petite fille, c'est là que vous avez réalisé qu'elle le faisait déjà.
Je suis remonté en arrière et je me suis dit, mais elle a fait ça aussi avec nos enfants en 1987 et 1989. Mais à l'époque, je ne l'avais pas réalisé.
Bien sûr. Oui, mais encore une fois, c'est toujours pareil. C'est que les choses, plus on va en parler, plus on va réaliser, si je puis dire, que ce qui se passe n'est pas normal.
Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Heureusement, ce qui m'a aidé aussi, c'est que... parce que j'ai oublié de vous dire que ma femme a été perverse narcissique. Et depuis, j'ai rencontré des femmes qui ont eu des maris pervers narcissiques, et au moins l'une d'entre elles m'a dit, mon mari a violé toutes mes filles. Et il paraît que c'est très classique. Et ça m'étonnerait pas parce que j'ai eu au téléphone pendant plus d'une heure Anne Ancelin-Sulzenberger, qui était professeure de psychologie à l'université de Nice. À l'époque, elle était retraitée, elle était revenue à Paris. Elle m'a bombardé de questions sur la sexualité de ma femme. Et à la fin, elle m'a dit « Monsieur, écoutez, je suis au regret de vous dire que très probablement, votre femme a été abusée sexuellement ou a touché sexuellement au minimum dans son enfance. » À l'époque, j'ai pensé que c'était mon beau-père, mais en fait, c'était pas mon beau-père, c'était ma belle-mère.
Donc, femme, toujours pareil, on voit bien la répétition dans ce que nous raconte Henri. Alors, je voulais juste ajouter que, attention, hein, tous les pervers narcissiques, d'abord, est-ce qu'elle était réellement perverse narcissique? En tout cas, certainement pas très nette, ne sont pas des abuseurs. Hein, faisons toujours attention aux généralités.
Bien sûr.
Merci Henri, en tout cas, de ce témoignage. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr
ça existe aussi, l'abus féminin, évidemment. Évidemment, mais on sait, si on voit les chiffres, on sait quand même, rien qu'à partir des condamnations et puis des affaires judiciaires, qu'il y a quand même une majorité d'hommes qui sont abuseurs. Mais il existe des femmes abuseuses.
Exactement. On va faire une... Merci beaucoup Henri, en tout cas. On fait une petite pause et on continue avec vos témoignages, bien sûr, au 0826-300-300. À tout de suite.
Sud Radio 7.
104.9.
Sud Radio.
D'être dur, on m'a demandé d'être fort, au point d'abattre ce mur, et puis d'en construire encore. On m'a dit faut des blessures, au moins des bleus sur le corps. C'est même à ça qu'on mesure tous ceux qui font des efforts. Tous ceux qui font des efforts. Sois un homme qui ne soit pas qu'un homme. Un homme qui ne soit pas qu'un homme. Sois un homme qui ne soit pas qu'un homme. Moi, j'ai rien demandé. Non, j'ai rien demandé. À personne, à personne. Cette foutue ligne d'arrivée, on m'a dit il faut séduire, toucher les corps, les compter, que l'important c'est d'en jouir et de brandir le trophée. Sois un homme, qui ne soit pas qu'un homme. Un homme qui ne soit pas qu'un homme. Sois un homme, qui ne soit pas qu'un homme. Moi, j'ai rien. L'émotion, à quoi ça sert? T'as plus qu'à serrer les dents. On m'a dit tu sais quoi faire, et puis t'es plus un enfant. C'est pour les filles, les manières, les mecs ça prend pas de gants. Moi, j'ai rien demandé à personne.
Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Nous continuons à évoquer les abus sexuels sur enfants avec Bruno Clavier qui est avec nous, psychanalyste et auteur de ce livre « L'inceste ne fait pas de bruit ». Je rappelle que dans ce livre, vous donnez aussi des pistes hein, pour s'en guérir. C'est aux éditions Payot. On le trouve toujours ce livre, hein, de toute façon.
Bien sûr, oui. Évidemment. Il va même sortir en poche.
Et ben, c'est une bonne nouvelle qu'il sorte en poche. Bonjour Sabrina.
Bonjour, bonjour Bruno, bonjour Brigitte.
Bonjour Sabrina, merci d'être avec nous.
Tout d'abord, je voulais déjà vous remercier tous les deux, parce que j'ai participé une fois à votre émission pour parler justement du fait que l'on pouvait, guérir des blessures justement de l'inceste, voilà, quels étaient les effets des traumatismes en étant adulte, et si on pouvait en guérir en fait ou vivre avec, tout du moins. Et donc du coup, vous avez écouté mon témoignage qui était quand même assez glauque, et vous m'avez envoyé un livre de Véronique Agrapard.
Oui.
Je n'ai jamais dit à personne, et je vous en remercie beaucoup, beaucoup, parce que ça m'a vraiment donné des pistes pour essayer d'aller mieux, quoi. Voilà. Et ça fonctionne.
Mais oui, bien sûr que ça fonctionne. Et je pense que le fait de témoigner aussi, d'être écouté par nous, mais aussi par tous ceux qui écoutent, c'est une sorte de catharsis. Hein,
oui, de catharsis, c'est pas simplement ça, c'est aussi de la justice. La justice est toujours collective. C'est-à-dire, c'est pas pour rien que les procès sont collectifs. Donc, de pouvoir témoigner devant un grand nombre, c'est une forme de guérison aussi, parce qu'on est reconnu dans quelque chose qui est de l'ordre de la justice. Oui, nous, on vous entend ici dans le studio, et puis des milliers de personnes vous entendent. Donc, vous pouvez, c'est guérisseur aussi, ça.
Oui, c'est vrai. Ça m'a permis d'entamer ce chemin de guérison, mais vraiment plus juste ne pas raconter. Mais essayer d'en guérir, quoi. Et ça m'a fait vraiment du bien, et je continue, quoi. Je continue, et j'ai envie de vivre, j'ai envie d'exister. Voilà.
Et puis dites-vous bien, Sabrina, que de plus en plus, c'est des choses qu'on pourra dire, qu'on pourra évoquer plus facilement de temps en temps, avec évidemment pas n'importe comment, n'importe où. Et ça, c'est important aussi, parce que pendant combien d'années les femmes se taisaient, n'osaient pas le dire à leurs compagnons, par exemple. Je pense que les hommes qui écoutent cette émission seront plus aptes à l'entendre de la part de leur partenaire s'ils rencontrent une partenaire qui a subi ce genre de choses. Donc tout ça est important. La parole libère. Je crois qu'on ne le dira jamais assez. Et merci de témoigner. Vous avez 44 ans aujourd'hui, hein, c'est ça ?
J'ai 44 ans, étant plus jeune, alors mon histoire étant plus jeune, je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé, je sais que ça s'est terminé aux alentours de 12 ans. J'ai été abusée sexuellement par mes trois oncles. Et puis c'est vrai que ça s'est fait dans un contexte familial assez particulier, parce que ma mère était mère célibataire, moi mon arrivée...
Donc c'est des frères de votre mère.
Oui. Oui. Oui, oui. Oui, qu'elle a donc ça a commencé parce que mes grands-parents m'ont aussi un peu élevé. Donc ça a commencé chez mes grands-parents, parce qu'ils vivaient chez mes grands-parents. Et ensuite, ils sont venus vivre chez ma mère. Et ça a continué là. À ce moment-là, ça a continué. Et c'est pour vous dire que justement, comment combattre ça, ça peut être compliqué, parce que c'est vrai que, comme je vous ai dit, moi je n'étais pas une enfant... désirée, si vous voulez, ma mère m'a gardée, parce que déjà à l'époque l'avortement c'était bien compliqué, et que il y avait aussi le contexte religieux qui l'empêchait de se dire qu'elle allait mettre fin à une vie, et moi j'avais pas la sensation d'être légitime dans cette vie, d'avoir d'être désirée. Donc,
ce qui est aussi un traumatisme, hein, parce qu'on sent que votre mère, vous étiez le fardeau, quoi, si je puis dire.
Voilà, c'est ça.
Quand même très traumatique déjà. C'est-à-dire que ça enlève la sécurité que tout enfant devrait avoir, donc ça, c'est quand même pas terrible. Et ensuite, être abusé par trois oncles, vous partez de loin, oui.
Si je peux, vous me dites si je si je parle à tort de ça, mais j'ai l'impression que ce que vous voulez dire, c'est que vous aviez besoin, parce que vous dites mère célibataire, c'est que votre père n'était pas là.
Oui, mon père n'était pas là, je ne l'ai jamais connu.
Vous ne l'avez jamais connu, c'est ça.
Voilà, ouais, ma mère me montrait des lettres de lui quand j'étais déjà toute petite, en fait. J'avais comme une espèce de formatage déjà, que je n'étais pas désirée, que j'étais une faute, qu'elle a combattu vent et marée pour me garder, et elle me montrait des lettres de lui où il lui demandait d'avorter.
Voilà, c'est ça. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que oui. ce que vous, par rapport à vos oncles, c'est qu'à ce moment-là, il y avait une telle manque de papa que vous vouliez de l'amour, quoi. Et donc, à ce moment-là, vous voyez, il y a un disciple de Freud qui s'appelait Ferenczi qui a écrit La confusion des langues. Il disait l'adulte propose du sexe et l'enfant veut de l'amour. Vous voyez. Parce que ce que je veux dire, ça rajoute à cette complexité, c'est que je pense que les oncles, c'était des papas de substitution violeurs, quoi.
Je le ressens pas comme ça.
Pas comme ça, d'accord.
Pour moi, je devais pas faire de vagues.
D'accord.
C'était normal que j'étais abusée. Effectivement, par contre, c'était normal d'autant plus que je n'avais pas de papa.
Mais c'est ce que je voulais dire quand même.
Voilà.
Vous voulez dire que vous n'aviez pas d'affection pour ses oncles, hein, c'est ça que vous voulez dire?
Non, j'avais de l'affection pour ses oncles. J'en ai eu jusqu'à très tard, quoi.
C'est ce que voulait vous dire Bruno. C'est encore plus compliqué quand on est abusé par des personnes que quand même. On aime, si je puis dire, voyez, parce que là, ça fait un paradoxe phénoménal. C'est-à-dire que vous cherchez auprès d'eux un peu de sécurité paternelle et d'amour, et en échange, vous avez du sexe.
Oui, c'est pour ça qu'il avait parlé de la confusion, qu'il y avait une confusion. C'est-à-dire que l'enfant veut quelque chose et l'adulte veut autre chose.
Et ça, si vous l'avez pas encore totalement intégré, c'est peut-être bien qu'on vous le dise là. Aujourd'hui, parce que vous voyez, quelque part, vous avez été, enfin, c'est une trahison énorme pour une enfant. Vous comprenez ce que je veux dire? Cette blessure de trahison, elle doit être très profonde chez vous.
Elle est énorme.
Forcément.
J'ai toujours cru que c'était normal, mais vraiment jusqu'à ce que j'ai ma fille, quoi. Jusqu'à ce que j'ai ma fille. Et c'est là, quand je l'ai vu bébé, je me suis dit, mais en fait, c'est pas normal ce qui m'est arrivé. J'avais l'impression qu'à ce moment-là, je voyais une deuxième moi qui me criait, mais hurlait depuis des années que c'était pas normal,
Ce que vous dites, Sabrina, on va revenir dessus parce que c'est important et on sait à quel point c'est souvent quand la femme devient elle-même mère qu'elle réalise à quel point elle a été abîmée, blessée. Donc restez avec nous, on vous retrouve dans un instant, Sabrina.
Sud Radio Biarritz.
103.9.
Sud Radio.
J'aurais voulu te rendre fière, passer des minutes blanches à supporter les dimanches et quand le lien s'était fait, t'attendre face à la porte, dire que l'été n'est pas mort et que le mal est passé. C'était trop tôt. Je sais. J'aurais voulu te rendre fier, passer des minutes blanches, rester au creux de tes hanches, accoudé à tes barrières. Même si j'ai mal à la tête lorsque tu penses à ton ex, même si vous deux c'est réglé. Enfin du moins je pensais, je sais. Je ne vais pas revenir puisque tu vas choisir un autre corps pour des corps à corps dans ce désordre. Où je ne serai pas le roi, puis si je reste là, dis-moi ça ferait quoi? Mal. J'ai pas fumé cet hiver, puis j'ai ressenti le manque quand j'ai senti ton errance, quand j'ai senti le mal-être. Prendre de toi les vacances, c'est un écho de violence, c'est un bouquet écrasé. C'était trop tôt, je sais. Alors j'ai fumé hier,
mais y a toujours le manque, car je danse sur la transe, mais t'es pas là à côté. J'avais cette envie immense de continuer la romance et de ne pas tout planquer. C'était trop tôt, et je sais, je ne vais pas revenir, puisque tu vas choisir un autre corps pour des corps à corps dans ce désordre où je ne serai pas le roi. Puis si je reste là, dis-moi, ça ferait quoi? Mal, mal. Non, je ne vais pas revenir, puisque tu vas choisir un autre corps pour des corps à corps dans ce désordre où je ne serai pas le roi. Puis si je reste là, dis-moi, ça ferait quoi?
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
Et nous retrouvons Sabrina. Sabrina qui nous raconte donc les abus sexuels de ses trois oncles et de cette mère, hein, qui mère célibataire qui ne défend pas sa fille. Ce que je trouve important aussi, Bruno Clavier a rappelé, hein, c'est qu'on voit souvent quand même chez les enfants qui sont abusés, qui sont incestués, hein, je crois, ouais, que le terme on peut l'utiliser, c'est quand même souvent des mères un petit peu déficientes. Je dis pas que c'est tout le temps, hein, parce
oui,
que
bien sûr.
Mais on a quand même aussi souvent une mère qui n'a pas suffisamment aimé et sécurisé son enfant.
C'est ça, ou qui sont, alors, soit qui veulent pas voir, soit qui sont dans le déni, et malheureusement très souvent qui elles-mêmes ont subi des choses. Donc moi je dis, à ce moment-là, elles servent le même repas qu'elles ont eu à leur fille, des fois presque oui, naturellement, quoi. Ou il y a celles qui, ouais, veulent les défendre, heureusement, il y en a aussi.
Bien sûr.
Voilà. Mais il y en a beaucoup qui ça se perpétue, voilà, c'est comme ça. Ça me fait penser à ça.
Ouais. Et je pense que, effectivement, ma mère a dû vivre une histoire un peu similaire, quoi, parce que, je sais pas, je sens bien qu'il y a des secrets, des choses qui ne sont pas dites.
Et justement, c'est important, puisque vous avez parlé de votre fille, hein, et que c'est à ce moment-là que vous réalisez que tout ce qui vous est arrivé n'est pas normal, et on est bien d'accord avec vous. C'est important, en revanche, vous, que vous puissiez en parler à votre fille pour casser, si alors, je puis dire, ouais, le...
Je ne suis pas rentrée dans les détails.
Non, bah c'est pas, on est bien d'accord.
Oui, mais c'est vrai que je lui en ai parlé. Et je lui ai aussi signifié, précisé que cela pouvait se faire aussi dans le cadre de la famille et qu'il fallait faire bien
super
attention. Parce que voilà, on peut, c'est pas qu'on ne peut pas faire confiance à tout le monde, mais il faut faire très attention quand il y a des choses
bien
qui nous alertent, il faut en parler, quoi.
Elle a quel âge, donc, votre fille actuelle?
Elle a 11 ans.
Bon, bah oui, elle a l'âge, vous dites, où ça s'est terminé, où c'est ça, vous savez pas quand ça a commencé, vous vous rappelez pas avec vos oncles?
Franchement, j'en ai aucune
idée. À mon avis, très très jeune, hein, oui, on peut le craindre.
Je pense, oui, parce que, bah, en fait, c'est vrai que en discutant tout à l'heure, je me suis rappelé que je l'avais dit, en fait, à une personne de la famille, parce qu'un jour, une de mes cousines nous a surpris avec un de mes oncles, et elle allait voir sa mère et lui dire, maman, il y a Sabrina et voilà, et tonton qui font l'amour. Et du coup, ma tante m'a fait venir. Et elle m'a dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Et sur le coup, c'est vrai que je disais non, non. Et parce que je voulais pas ramener encore un autre problème, quoi. Et puis après, j'ai fini par dire oui. Et vraiment, je ressens encore cette sensation de me dire, ben voilà, dis oui et puis ça s'arrêtera. Et je dis oui. Et là, ma tante, ben, elle m'a, mais vraiment, mais pourrie, quoi. Mais tu n'as pas à faire ça. Mais qu'est-ce qui te prend? Mais ça ne va pas. Tu ne dois pas faire des choses comme ça. Et puis, en plus, je disais ça devant toutes ces filles. Enfin, il y avait ces trois filles qui étaient là. Les regards bien accusateurs. Donc, encore ce poids de
dire... C'est terrible. Surtout que c'était bien la sœur de cet homme-là, en plus.
Oui. Mais je ne sais pas si elle allait lui dire quoi que ce soit, puisque je ne pense pas, puisque ça a recommencé par la suite.
Ah, c'est affreux.
Mais c'est vrai que, voilà. Et du coup, ça a juste légitimé le fait que je ne devais effectivement
pas faire de vagues, comme vous l'avez dit.
Voilà, oui. Je ne dois pas faire de vagues, je dois le garder. C'est moi l'erreur, c'est moi la faute. Donc, voilà, il ne faut rien dire si je veux continuer à vivre plus ou moins normalement. Quoi. Voilà. Donc c'est ça aussi, il y a de nombreux signes, effectivement, il y a des enfants qui vont être agités, il y a des enfants qui vont avoir des comportements anormaux, mais il y a aussi des enfants qui vont être très calmes et qui vont avoir cette image parfaite d'enfants parfaits, qui ne disent pas un mot, qui ne font rien, qui voilà, parce qu'il ne faut pas faire de vagues pour pas susciter la colère, pour pas encore se entendre dire de toute façon, tu n'avais pas qu'à être là, moi je voulais pas d'une fille, je voulais d'un garçon, de s'entendre dire aussi je vais te tuer, quoi, si tu dis quelque chose, je vais te tuer, parce que j'ai une maison qui m'a menacée, qui m'a menacée un jour de me tuer avec le couteau, parce qu'une nuit... je dormais et puis il est venu, il a commencé à me toucher et voilà. Et puis moi, je me réveille et je me dis, mais c'est pas possible, même quand je dors, quoi. Mmh. Et je me réveille en colère et puis je lui dis à maman. Et il me dit, t'as pas intérêt, sinon je vais te tuer, tu vois, ce couteau, je vais te tuer. Donc, ouais. Du coup, à un moment, je me dis, dans ma tête d'enfant, mais je m'en fous, en fait, je m'en fous. Et j'y vais. Je vais vers la chambre de ma mère et je m'arrête devant la porte et je me dis, tu vas encore créer des problèmes.
Oui,
et je retourne, je lui dis, je ne l'ai pas dit, mais tu arrêtes, ça suffit, tu arrêtes.
Justement, Sabrina, qu'est-ce qui vous a permis que ça s'arrête quand vous avez 12 ans?
Parce que j'ai eu mes règles.
Oui.
Et j'étais toujours dans ce... mais tu sais, maintenant je peux avoir un bébé. Je peux avoir un bébé. Et j'essayais de lui faire peur comme ça,
ah oui,
en lui disant ça. Oh là là, j'ai le ventre qui est gros. Voilà. Et il me disait non, c'est pas. Parce qu'il y en a vraiment un qui a continué. Il y en a certains qui ont arrêté. Il y en a un qui a continué en particulier, justement, jusqu'à l'âge de mes 12 ans. Et puis je lui faisais peur comme ça. Et puis un jour, il s'est trouvé une copine aussi. Et puis à partir de ce moment-là, ça s'est arrêté, quoi. Mmh.
Voilà. Mais donc, vous aviez quand même une certaine maturité pour être consciente que vous pouviez tomber enceinte.
Ben,
non, mais oui, enfin, je trouve, parce que oui. Donc, il y avait quand même chez vous, et c'est peut-être ce qui vous a sauvé aussi, parce qu'avec ce que vous avez traversé, c'est quand même assez difficile. C'est peut-être ce qui vous a sauvé, cette sorte de bon sens, de lucidité.
Ben, je pense, oui, que ça m'a sauvée. Je pense aussi que mon cerveau a fait son devoir parce que, voilà, c'est pour ça que j'ai pas trop envie de trifouiller non plus pour me rappeler des choses qui me...
Il y a quelque chose de très intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que, parce que c'est quelque chose que je veux relever, parce que dans les familles, c'est comme ça, c'est que vous aviez pas peur pour vous, puisque quand il a dit qu'il allait vous tuer, vous étiez prête à parler. Mais vous avez eu peur pour votre maman, presque, pour la protéger, pour protéger la famille. C'est pour ça que vous n'y avez pas été.
Oui.
Vous voyez,
oui.
C'est extrêmement intéressant. C'est que dans les familles d'inceste, comme ça, c'est beaucoup pour protéger la famille que les enfants ne parlent pas. Pas pour
et
protéger
encore aujourd'hui.
Eux.
Encore aujourd'hui, parce que personne de la famille ne le sait.
Ah, personne ne le sait aujourd'hui.
Alors, non.
Ils sont vivants encore, vos oncles.
Il y en a un qui est décédé, il y en a deux autres qui sont vivants. C'est vrai que quand j'ai eu ma fille, j'étais tellement mal que je les ai appelés pour leur dire à quel point ils m'ont fait souffrir.
Ah, quand même.
Sauf le dernier qui est décédé. Je ne l'ai pas eu au téléphone parce que je n'avais pas son numéro. Et je les ai appelés. Il y en a un qui a complètement nié en disant bah, « Non, tu n'importe quoi, t'es folle. » Même au point de me passer son épouse. Et je lui ai dit « Clairement, ton mari, c'est un pédophile. » Mais je pense que cette femme, elle était tellement perchée qu'elle ne comprenait rien du tout. Ben puis, oui. Je ne comprends pas ce qu'elle dit. Et puis, un autre qui m'a dit bah, « Écoute, si je t'ai fait du mal, j'en suis vraiment désolée. » Et puis voilà, et puis c'est vrai qu'à ce moment-là, je lui dis, ben, je te dis une chose, parce que tu as des enfants, fais attention à tel oncle, parce que voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il m'a fait, donc fais attention à tes enfants. Mmh. Et il m'a dit, oui, je sais. Donc c'est pour ça que je me dis, il y a forcément quelque chose dans cette famille qui
je vous confirme que c'est une famille qui ne fonctionne pas bien, Sabrina, ça on peut
et malheureusement dire. Sur plusieurs générations, c'est souvent sur plusieurs générations.
Oui, le verre est dans le fruit depuis très longtemps, Sabrina. Écoutez, Sabrina, vous continuerez à avancer tranquillement, à votre vitesse. J'entends bien que vous avez un peu peur de découvrir encore des choses qui vont vous faire souffrir, etc. De toute façon, vous faites-vous aider, avancez tranquillement. C'est un long travail.
Et toujours doucement, oui.
Et faites comme vous le sentez, faites-vous confiance, vous avez quand même une bonne capacité à ressentir les choses, donc faites-vous confiance. D'accord.
En tout cas, merci à vous de parler de ces sujets, parce que voilà, c'est peut-être juste quand on est enfant, on dit bon, c'est pas grave, on est enfant, mais adulte, ça vous détruit quand même.
Mais
ça vous détruit quand on s'en rend compte, ça détruit.
Sabrina, on ne pourra parler bien de sexualité que quand on arrêtera d'abuser les enfants. Tant qu'on en est là, on aura de toute façon toujours des difficultés à parler de la sexualité libre pour tous. De toute façon, donc c'est un peu, c'est normal, c'est aussi ma mission. Merci beaucoup Sabrina, merci à vous.
Merci, bonne continuation.
On fait une petite pause, Bruno Clavier, oui. Puis on se retrouve dans un instant.
Sud Radio Axe-les-Thermes
103.
Sud Radio.
Se dessine, courageux et fort, où rien ne respire, corps contre corps, ciel contre cime, la forêt se tord, l'horizon soupire, t'aimer sur les bords. Ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire, t'aimer sur les bords du lac. Ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent. Rivière est là, font prendre racine. J'ai trompé la mort, la pente est facile. Serre-moi encore, que mes anges vacillent. T'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps. Qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. Oh.
dormais sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. T'aimais sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
22h minuit, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bruno Clavier est avec nous. Vous êtes psychanalyste, psychologue, clinicien, auteur de plusieurs livres sur l'inceste. Celui qui va bientôt sortir en poche, L'inceste ne fait pas de bruit, c'est aux éditions Payot. Et on va conclure avec le témoignage de Delphine. Et oui, il est déjà temps de conclure. Bonjour Delphine.
Bonjour Brigitte, bonjour Bruno.
Bonjour.
Merci d'être avec nous Delphine. On vous écoute.
Merci à vous de me recevoir et de me permettre de témoigner dans cette émission. Donc moi j'interviens, je dirais, presque à double titre. D'abord parce que... Alors je voudrais juste saluer le témoignage de Sabrina juste avant moi et lui envoyer tout plein de courage parce que j'ai trouvé son témoignage très touchant. Oui. et elle est en chemin en fait, donc surtout qu'elle garde l'énergie vitale là. Mmh. qu'elle a commencé à toucher à l'intérieur d'elle pour aller de l'avant, parce que c'est possible en fait, voilà, et c'est ça que j'ai envie de lui dire, parce que comme elle notre histoire est presque similaire. J'ai été aussi abusée par un de mes oncles qui était le mari de la sœur de mon père, donc un oncle par alliance. Ça a commencé, j'avais 12 ans, ça s'est arrêté, j'avais 16 ans. Ça a été assez violent parce que récurrent, et puis j'ai vécu comme elle tous les traumatismes du jugement, de la famille, des menaces. Moi j'ai eu la chance d'avoir alors maman n'avait rien vu, si on veut se parler de signes, parce qu'il y a aussi voilà cette voix de maman et c'est tout le côté préventif en fait qui m'intéressait dans l'émission d'aujourd'hui, parce que je suis convaincue qu'il n'y a qu'en parlant qu'on va pouvoir arriver à mieux permettre aux personnes autour de nous à prendre conscience que, j'ai envie de dire, de l'ampleur des dégâts.
Je suis totalement... Oui. Alors d'abord, merci pour Sabrina. Et je suis totalement d'accord avec vous, Delphine. Il ne faut pas croire qu'il suffit de faire passer des lois. Non, on lève les tabous par la parole.
Et le premier qu'on peut, j'en suis convaincue, et merci de le dire, Brigitte, parce que je crois que la première personne pour laquelle on lève le tabou, c'est soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ose parler, et ben on se fait de la place. Et à partir du moment où la parole est entendue dans le sens où elle est reçue et que quelqu'un prend en compte ce que vous dites, peu importe qu'il y ait une action juridique ou pas derrière, ça dépend du chemin de chacun et oui. Voilà, et de l'âge et du moment. Mais à partir du moment où on a quelqu'un en face de soi qui vous dit « j'entends ce que tu me dis et
on sort de son mur de silence.
Ouais. Ouais, vraiment, on revient là. Il y a un appel d'air qui se déclenche. Il y a quelque chose, c'est de l'ordre de « j'ai ouvert le parachute ». Et puis ben après, et c'est pas une, c'est, on ouvre le parachute pour se sauver, hein, pas pour faire une descente en flamme, mais vraiment pour se sauver. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la redescente, et je vais poser mes pieds correctement sur le sol pour me réancrer dans la vie. Il y a vraiment quelque chose qui est de cet ordre-là, je trouve. La parole, c'est vraiment une libération. Donc c'est en tout cas, moi, je l'ai vécu et accueilli comme ça. Je continue à l'accueillir comme ça. Et mon expérience à moi aujourd'hui, ça me permet d'avoir un œil attentif autour de moi. Alors, j'essaie de pas trop le faire remarquer parce que j'ai pas envie de porter cette casquette. Parce que, en fait, quand on commence à parler dans la famille, moi, j'ai eu le jugement de ma famille qui m'a regardée comme « Oh, bah, elle veut se faire plaindre, c'est une pauvre victime ». Voilà. Moi, j'ai une grand-mère qui m'a regardée en me disant que j'étais une putain, j'ai été mise dehors. Mon grand-père m'a dit que j'avais jeté l'eau propre sur la famille. Enfin, c'est double peine. Des fois, c'est même triple peine parce que vous avez, comme vous le disiez tout à l'heure, Bruno, la personne qui vous fait du mal, qui vous menace de mort. Donc vous êtes déjà mort, entre guillemets, une fois, on vous tue une deuxième fois parce qu'on vous menace de mort. En plus, on menace de faire... Moi, j'ai été abusée devant mon plus jeune frère, donc on a menacé de faire du mal à mon frère.
Bah voyons, oui.
Donc chantage, alors chantage atroce en fait, parce que comme vous le disiez tout à l'heure Bruno pour Sabrina, bah en fait on veut préserver sa famille. Moi j'ai vraiment, ça a vraiment trouvé de l'écho en moi quand Bruno a dit ça. Parce que ben d'abord, ben vous faites pas de bruit, vous dites pas parce que vous voulez pas qu'on vous tue. Après, ben vous voulez pas qu'on tue votre famille. Puis ensuite, ben quand vous parlez, et ben en fait on vous met dehors. Donc ben vous êtes définitivement catalogué. Enfin, vous, moi j'osais même plus me balader dans le village de mes grands-parents.
Hein. Ouais, c'est fou. Hein.
On peut plus sortir. Enfin, moi, je me suis retrouvée. C'est mon médecin traitant, parce que en fait, le signe déclencheur, ça a été la baisse de notes. Moi, j'étais en seconde, j'avais toujours été une bonne élève. Mes notes ont chuté drastiquement. Je suis passée d'une moyenne qui tournait entre 14 et 16 à 9. Et le signe déclencheur pour maman, ça a été ça. Elle s'est dit l'école se casse la figure. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu en fait convocation de mon professeur principal pour dire voilà, Delphine, ça va pas. On l'a connue à d'autres moments avec un autre parcours, il y a quelque chose qui cloche. Et là, maman m'a pris par la main et m'a emmenée chez le médecin. Et cet homme-là, aujourd'hui, j'aimerais tellement qu'il soit à l'arrière de son poste de radio, parce que c'est quelqu'un qui m'a sauvé la vie.
Ben, c'est remarquable.
Oui, il a fait un signalement au procureur de la République. Alors, ça a été très, très perturbant pour moi, parce que j'ai été, à partir de ce moment-là, j'ai eu l'impression d'être complètement dessaisie de mon histoire, de plus comprendre. Enfin, j'avais l'impression qu'on me racontait une histoire et pas la mienne. J'ai été emmenée vers des choses, des tonnes de médecins, des tonnes.
Non, oui, je comprends.
Enfin, trop. On a toujours l'impression que c'est trop quand on vit, parce que le parcours médico-juridique, en plus, ce qui est important parfois, c'est justement le manque d'accueil de cette parole. C'est-à-dire que ce soit dans la famille ou à l'extérieur, on vérifie. C'est-à-dire,
oui, c'est ça.
Vous trouvez le courage de dire je suis victime, et puis alors on vérifie vos paroles.
Oui. Et on vérifie avec le corps, des fois même.
Ah ouais,
hein, c'est affreux. Mais en même temps, enfin, je sais que.
Mais
vous,
il faut bien vérifier.
Voilà, parce que sinon, on pourrait aller dans un abus contraire, malheureusement. Mais je comprends bien que ce soit là aussi abusif. Invasif, plus exactement.
Oui. C'est ça. Et pour le coup, là où j'ai eu de la chance une deuxième fois, c'est que moi, dans cette procédure juridico-administrative, j'ai été accompagnée par des dames d'une association qui s'appelle Enfance et Partage, et qui ont été extrêmement bienveillantes et qui m'ont préparée à tout ça. Le premier examen médical avec le gynécologue, c'était un monsieur qui faisait 1m80, c'était horrible, j'avais 16 ans, enfin, j'ai pas pu être examinée. Elles m'ont récupérée en dehors de la salle, en me disant mais c'est pas grave, on va trouver une solution, t'inquiète pas, ça va pas durer. Donc j'ai été écoutée et accompagnée. Et ça, ça m'a permis de continuer jusqua aujourd'hui, quoi.
Oui, et puis j'entends aussi que votre mère a pris en compte, vous a pris en compte, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été dans le déni, elle vous a pas rejeté, visiblement.
Non,
votre...
ça a été difficile pour mes parents, et la personne qui a fait preuve de courage aussi, ça a été mon papa, parce qu'il a fallu qu'il aille voir ses parents pour dire les choses.
Oui, mais au moins ils vous ont accueilli dans votre vérité.
J'ai été accueillie en vérité, hein. Et ça c'est super important, parce que ni mon père ni ma mère, si toute la famille autour s'est liguée pour faire front, ni mon père ni ma mère n'ont douté de moi à aucun moment, et papa ça lui a coûté très cher, parce que ça a été 10 ans de privation, enfin 10 ans, nous on n'avait plus de grands-parents, papa n'a plus vu ses parents, enfin ça a été... Voilà.
Il a été condamné, vraiment... votre oncle?
Oui. Ah ouais. Oui, 42 mois de prison, dont 10 avec sursis, parce qu'il s'était bien comporté dans la période, d'examen. Et puis il est sorti en avant parce que ben il a eu un bon comportement, il s'est fait soigner. Bon, aujourd'hui ce monsieur est toujours vivant, là où mon papa est mort. Bon, mais ça c'est la vie. Mais en tout cas, le bénéfice de ça, c'est qu'aujourd'hui ça me rend attentive, et puis ça me donne aussi, j'ai envie de dire un peu, c'est dans l'actualité, je vais pas faire original, mais voilà. Cette idée de prendre un relais de voix officielle pour être attentive autour de moi, et puis d'oser dire quand je vois des choses qui me perturbent. Alors, j'observe beaucoup maintenant, et par rapport au signe, je dirais que tout changement de comportement dans le comportement d'un enfant peut porter question.
Tout à fait.
Mais de toute façon, on sait que quand tout d'un coup, un enfant, et on parlera demain avec Jean-Louis Guilleneuf de la délinquance, des jeunes et de la délinquance, quel est le rôle des réseaux sociaux, comment lutter aussi sur un plan sociétal, puisque c'est un commandant de police honoraire, donc il connaît très bien le sujet. Je crois que c'est vraiment important de le rappeler. Tout enfant qui, à un moment donné, change de comportement, subit quelque chose qui n'est pas normal, que ce soit du harcèlement, de l'abus, de la violence.
Quelque chose, oui.
Et ça, je crois qu'on commence quand même à le dire haut et fort, et que tout parent qui ne le voit pas, ou qui, quelque part, c'est un mauvais parent. Enfin, je veux dire, ça me semble évident.
Je suis vraiment d'accord avec vous. Aucun jugement sur le comportement des uns et des autres de ma part, mais vraiment, c'est important quand on est parent. Et je trouve même parfois courageux, mais c'est un autre débat, mais je trouve même parfois courageux pour certaines personnes, certains jeunes. Moi, j'entends des jeunes aujourd'hui qui disent, je ne me sens pas parce que je n'ai pas aujourd'hui la responsabilité. Et je préfère presque, parce qu'on oublie aujourd'hui que être parent, c'est être responsable. Et être responsable, ça veut dire regarder ses deux yeux bien ouverts, quoi.
Je voulais juste ajouter quelque chose. Je vous remercie pour vos témoignages à propos du médecin traitant, parce que moi, je milite pas beaucoup, mais si je pouvais militer pour quelque chose, c'est une formation. Ceux qui sont en première ligne sont les médecins traitants. C'est même pas les psys. C'est même pas
ouais,
le psy. C'est-à-dire qu'en général, le parcours, c'est le médecin traitant qui envoie au psychiatre et qui envoie au psy.
Et à l'école, peut-être aussi. Quand on a un élève qui, tout d'un coup, me semble aussi quand même.
Mais les médecins traitants sont vraiment en première ligne, et c'est anormal qu'il n'ait pas une formation spécifique, tous là-dessus, c'est-à-dire sur les violences sexuelles, quoi.
Et les incestes. Aujourd'hui, tous les spécialistes comme vous, Bruno, le disent, il y a des signes cliniques aujourd'hui. Ben oui. Qui, quand on s'intéresse à ce phénomène-là, et a fortiori, moi, je m'y intéresse, j'écoute vos émissions qui sont extrêmement bien documentées et toujours très étayées. Merci pour ça. Et objectives, je trouve, constructives, en fait. Et moi, j'ai appris plein de choses, et je trouve que même les infirmières scolaires pour les établissements où il en reste, elles pourraient avoir un peu de sensibilisation, parce que on ne sait jamais au travers de quel regard la parole d'un enfant peut être reçue, ou de quelle oreille plutôt, pardon, pas de quel regard. Et il y a parfois, il suffit d'un peu d'attention parfois pour que le pas soit franchi.
Je donne par exemple un exemple que Bruno Clavier m'avait fourni, hein. Un enfant qui refait pipi au lit à partir de par exemple 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est aussi un indice. Enfin, il y a des indices, et c'est vrai que ça, c'est quand même là-dessus où on pourrait encore plus communiquer. L'alimentation, absolument.
L'alimentation, moi j'ai été anorexique sévère, moi j'ai été boulimique. Alors j'étais une enfant très ronde, et c'est pour ça que ma prise de poids a pas interrogé mes parents. Mais par contre, après le procès, il y a eu une espèce de... On aurait dit que le corps et l'esprit s'étaient dissociés, et j'avais besoin de passer par cette phase d'épuration, et l'anorexie, ça a été absolument ravageur. On sait aujourd'hui, moi je l'ai entendu dans votre bouche, Bruno, que l'anorexie, c'est quelque chose qui est un signe clair maintenant.
C'est ce que j'appelle un marqueur, un des marqueurs principaux de violences sexuelles, c'est l'anorexie.
Et quel que soit le sexe de la personne.
Absolument. Écoutez, Delphine, je suis ravie d'avoir terminé cette émission avec votre témoignage, qui est aussi un témoignage très positif. On avait commencé par un témoignage positif, on termine par un témoignage positif. Ça prouve bien que c'est important d'aborder ce sujet, que nous aborderons, comme toujours, régulièrement. Merci beaucoup,
Delphine.
Merci à vous, Bruno Clavier.
Oui,
on continue, on avance. Hein. C'est quand même... Terminons par ce message positif.
Ouais, et plein d'énergie.
Et d'élan vital, de retomber les pieds sur terre pour continuer à avancer. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan. Je vous embrasse et je vous dis à demain avec Jean-Louis Guilleneuf qui nous donnera également beaucoup d'informations pour que notre société s'améliore.
Sud Radio à Brignoles en DAB+.
Sud Radio.
Je crois que la nana venait du Connecticut. On peut dire que la vie lui mettait des super.
supercut. Serveuse dans le diner accoudée au motel.
Elle porte un tablier qui la rend super belle. Quand les clients arrivent, ils commandent des meatballs. Le regard dirigé vers le match de baseball.
Personne ne la regarde, pourtant c'est une beauté. Une femme ordinaire que l'on a sous-côté.
Mais dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir qu'elle a le méga style. Dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir cette danseuse étoile. Qui danse?
Scénariste, ça break, ça danse, on est dans la street. Les groupes se forment, y'a des gars, des filles. Y'a du rap rock, y'a des défis. Et puis y'a ce mec en apesanteur. Moitié condor et moitié breaker. Un performer, j'te le jure, j'insiste. C'est un danseur unijambiste. Personne ne demande ce qu'il fait là. Ici on se fout des vuvuzelas. Avec Becky, il devient gymnaste. Il gère l'espace, il est trop classe quand il danse. Naturel, ça sonne comme une évidence. Ils dansent, quelle que soit la distance. La transe est un dialogue qui crée la correspondance. Ils dansent pour leur indépendance. Qu'importe la gouvernance, quelle que soit la présidence. Ils dansent sur champ de résistance. La danse de la pluie pour amener l'abondance.
Ils dansent.
Sud Radio.
Sud.
Sud Radio.
Quand au fond du camp, que la vie coupe mes jambes, quand je pleure, quand tu trembles, que notre terre flambe, quand tout semble insurmontable, que mes forces me que je me cache sous la table, que mes heures se délitent. Il suffit que tu apparaisses pour repousser les vents. Il suffit que je te reconnaisse, car tu es le sel, la cannelle, le piment. Quand je m'ennuie, que les jours perdent leur saveur, quand la vie fuit, qu'il ne reste que la torpeur, quand le froid me saisit et me fige, que la lassitude m'affaiblit et m'oblige. Il suffit que je te regarde pour que le ciel s'allume. Il suffit que je te regarde, car tu es le seul.